Vous écoutez, on lit pour vous.
Sortir de l'ombre. Un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. Après avoir subi une commotion cérébrale en janvier 2023, Nicole Weeks a passé près d'un an à lutter contre des symptômes tels que migraines, fatigue et étourdissement. Au début, cette femme de 43 ans n'a pas réalisé à quel point elle s'était fait mal à la tête. Je marchais sur le trottoir, j'ai glissé sur de la glace noire, je suis tombée vers l'arrière et ma tête a rebondi sur le sol, raconte-t-elle. Elle est restée allongée sur le dos, les bras en croix, pendant une minute, en état de choc. Convaincue qu'elle n'était pas blessée, elle s'est ensuite relevée, pressée de rejoindre une amie pour le brunch. À un moment, elle s'est sentie loin et étourdie lorsque son amie parlait, mais la sensation a fini par disparaître et elle n'y a plus pensé. C'est une semaine après sa chute que Nicole reçoit officiellement le diagnostic d'une commotion cérébrale. Ce retard dans le traitement pourrait être l'une des raisons pour lesquelles ses symptômes ont persisté si longtemps. Comme traitement, les médecins prescrivaient autrefois de se reposer dans une pièce sombre en évitant toute stimulation mentale. Mais grâce aux récentes recherches, nous savons maintenant que trop de repos et d'isolement peuvent nuire à la récupération. La meilleure approche se situe entre les deux, le repos actif. Un retour lent et progressif aux activités aide les patients à se rétablir plus rapidement et réduit le risque de dommages à long terme. Que se passe-t-il? Le cerveau est protégé par un liquide absorbant les chocs et, à l'extérieur, par le crâne. Lors d'une commotion cérébrale, le cerveau bouge à l'intérieur du crâne, heurtant l'arrière, l'avant, puis de nouveau l'arrière, créant ainsi une cascade d'impacts. Les neurones du cerveau sont ébranlés et, entre ces neurones, les axones, fibres fines qui transmettent les impulsions nerveuses, s'étirent ou se cassent. L'impact peut également réduire l'irrigation sanguine du cerveau et endommager les mitochondries des neurones qui créent de l'énergie. C'est comme si un tremblement de terre s'était produit à l'intérieur du cerveau. Tout est encore debout, mais il y a des fissures dans les routes et les fondations des bâtiments. Ces dommages microscopiques ont de graves conséquences. C'est pourquoi la commotion cérébrale est également connue sous le nom de traumatisme crânien. Le cerveau dépense beaucoup d'énergie pour se réparer, ce qui, combiné à la diminution de l'apport sanguin et aux dommages subis par les mitochondries, entraîne une fatigue extrême. D'autres symptômes peuvent apparaître, comme des maux de tête, des problèmes de mémoire, de l'irritabilité, de l'insomnie et des troubles de l'équilibre et du traitement visuel. Il y a des décennies, le public démontrait une attitude de laisser-faire à l'égard des commotions cérébrales. Les choses ont toutefois changé grâce à une meilleure prise de conscience des effets à long terme. Le film « Commotion » 2015 relate l'histoire vraie du médecin légiste Bennett Omalu, étudiant l'encéphalopathie traumatique chronique, ETC, un trouble cérébral causé par des traumatismes crâniens répétés. L'ETC provoque une dégénérescence cellulaire dans le cerveau et des symptômes tels que l'altération du jugement et la démence. La maladie ne peut être confirmée que lors d'une autopsie post-mortem et ces dernières années, Plusieurs anciens joueurs de la NFL et de la LNH ont été déclarés atteints, notamment l'ancien joueur des Broncos de Denver, Demaryius Thomas, et l'ancien joueur des Giants de New York, Frank Gifford. En juin dernier, Henri Richard, ancien joueur de la LNH pour les Canadiens de Montréal et membre du Temple de la renommée du hockey, a été diagnostiqué, à titre posthume, comme étant atteint de l'ETC. Il est décédé de la maladie d'Alzheimer en 2020. Bien qu'ils soient les exemples les plus médiatisés, les athlètes ne sont pas les seuls à souffrir de commotions cérébrales. Chaque année, environ 400 000 Canadiens en sont victimes. Parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans, 30 % des commotions cérébrales résultent des chutes, suivies des sports, 21 %, des accidents de travail, 15 % et des accidents de voiture, 11 %. Chez les Canadiens de 65 ans et plus, les chutes sont de loin la cause la plus fréquente, avec 61 %. La fin de la théorie de la pièce sombre. Le traitement de la pièce sombre, qui était jusqu'à récemment la norme prescrite par la plupart des médecins, impliquait que les patients se reposent dans l'obscurité jusqu'à ce que leurs symptômes disparaissent. Cette recommandation est issue d'études menées dans les années 1990 et 2000, révélant que des athlètes ayant subi une commotion cérébrale et qui continuaient à pratiquer une activité intense récupéraient plus lentement que ceux qui se reposaient. Après une commotion cérébrale, le cerveau utilise beaucoup d'énergie pour récupérer. C'est pourquoi la fatigue est un symptôme courant. Les médecins et les chercheurs ont donc conclu qu'en faire le moins possible, tant sur le plan cognitif que physique, permettrait de libérer l'énergie nécessaire au rétablissement du cerveau. Les personnes qui passent beaucoup de temps dans une pièce sombre sont également plus susceptibles de souffrir d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Et leur corps s'affaiblit par manque d'activité. D'autres recherches ont ensuite démontré les bienfaits de maintenir un niveau modéré d'activité. Une étude de 2008, publiée dans le Journal of Athletic Training, a révélé que des athlètes pratiquant une activité modérée après une commotion cérébrale, comme retourner à l'école et reprendre les entraînements sportifs, obtenaient de meilleurs résultats aux tests de mémoire, de temps de réaction et de vitesse motrice visuelle que ceux qui se dépensaient davantage et que ceux qui faisaient peu d'efforts. La solution par étapes. La science et la recherche ont évolué au cours de la dernière décennie en montrant que l'arrêt total de l'activité retarde le processus de récupération, explique Shelina Baboul, spécialiste des blessures sportives et professeure clinicienne au département de pédiatrie de l'Université de la Colombie-Britannique. On favorise une augmentation lente de l'activité en commençant par un ou deux jours de mouvement quotidien léger, en augmentant progressivement jusqu'à un retour complet aux activités normales sans restriction. Malgré l'avancement de la recherche, une grande partie du public et même de nombreux médecins ne connaissent pas les nouvelles pratiques en matière de commotion cérébrale. Pour faire passer le message, Shelina Baboul a créé un outil de sensibilisation. « J'ai des collègues extraordinaires », précise-t-elle, « mais il faut en moyenne 15 à 17 ans avant que la recherche scientifique ne passe du laboratoire au chevet du patient. L'outil de formation, qui vise à éduquer le public, les médecins, les soignants et les entraîneurs, comprend des plans progressifs pour un retour à la vie quotidienne en 4 étapes. Vous écoutez? Sortir de l'ombre. Un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest. La première étape doit être observée pendant 24 à 48 heures. Les patients sont encouragés à dormir, à éviter les écrans et la conduite automobile et à poursuivre des activités régulières à la maison, travaux ménagers, marches légères, etc. À la deuxième étape, les patients peuvent reprendre une activité aérobique légère à modérée, comme le vélo d'intérieur, la marche rapide et le jardinage. Ils peuvent réintroduire progressivement les écrans. Dès que le patient peut tolérer une activité aérobique modérée, il peut passer à la troisième étape qui consiste à retourner au travail ou à l'école et à reprendre la plupart de ses activités normales. Si ces activités provoquent la réapparition des symptômes, il doit arrêter et réessayer le lendemain. Enfin, à la quatrième étape, une fois qu'il peut faire tout cela et qu'il a reçu l'autorisation d'un professionnel de la santé, le patient peut reprendre une activité normale sans restriction. L'objectif est de maintenir les gens dans leur fenêtre de tolérance, explique Shelina Baboul. Faire trop de choses trop tôt peut pousser le cerveau à la surcharge. Le docteur Charles Tater est neurochirurgien et directeur du Centre canadien des commotions cérébrales à Toronto. Il a été fait officier de l'Ordre du Canada et membre du Panthéon des sports canadiens pour ses travaux sur les commotions cérébrales et la sécurité dans le sport. Le docteur Tater suggère de limiter l'alcool et de ne pas consommer de cannabidiol, un produit du cannabis. Il semble empêcher la production de bonnes substances chimiques dans le cerveau de faire leur travail, explique-t-il. Bien dormir peut également aider, ce qui peut impliquer d'éviter la caféine ou de modifier son hygiène de sommeil. Les personnes ayant subi une commotion cérébrale sont plus susceptibles de souffrir d'apnée du sommeil, ajoute-t-il, et devraient consulter en cas de doute. À long terme, la récupération n'est pas aussi rapide qu'on le pensait, déclare le docteur Tater. Si l'on sait aujourd'hui que la plupart des gens se rétablissent en 4 semaines environ, on estime que 30 % d'entre eux présenteront des symptômes plus longtemps, et pour certains, ils peuvent même être permanents. En ce qui concerne le nombre et le type de symptômes, ainsi que le potentiel de récupération, il n'y a pas 2 patients pareils. Chacun a besoin de soins personnalisés, qui sont généralement prodigués par différents professionnels de la santé. Les personnes dont le vertige est un symptôme majeur, par exemple, doivent consulter un physiothérapeute vestibulaire, tandis que l'anxiété, la dépression ou les troubles post-traumatiques sont traités par un spécialiste de la santé mentale. D'autres facteurs influent sur la récupération, notamment la force de l'impact et le fait d'avoir déjà subi une commotion cérébrale. Plus d'un an après sa commotion cérébrale, Nicole Weeks a repris sa vie active. Mais elle ressent encore certains symptômes, comme des maux de tête et des étourdissements. Elle aurait aimé reconnaître plus tôt les signes d'une commotion cérébrale et ne peut s'empêcher de penser qu'une approche lente et progressive aurait fait la différence dans son rétablissement. C'est pourquoi l'éducation et la sensibilisation sont si importantes, explique Shelina Babul. Les personnes qui suivent les conseils et dont la prise en charge est appropriée ont tendance à se rétablir sans problème. Tandis que celles qui ne le font pas et qui continuent à pratiquer leurs activités et à fatiguer leur cerveau sont susceptibles d'avoir des symptômes persistants à long terme, explique-t-elle. L'essentiel est de les reconnaître immédiatement et de savoir ce qu'il faut faire. C'était « Sortir de l'ombre », un texte de Vanessa Milne, paru en avril 2024 dans Sélection du Reader's Digest.
Briser le tabou de la santé mentale à Yellowknife. Un texte de Cristiano Pereira, paru en juin 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. Un ancien propriétaire d'une entreprise de construction, Trevor Castile, a organisé une session publique sur la santé mentale afin de faire part de ses expériences, mais aussi d'inspirer, de motiver et de briser le tabou sur le sujet. La séance publique sur la santé mentale intitulée « Il est temps que le silence souffre » a eu lieu le 11 juin 2024 à la salle D&D du multiplex de Yellowknife. L'événement était organisé par Trevor Castile, ancien propriétaire d'une entreprise de construction à Yellowknife qui a déclaré faillite en octobre 2023. Depuis, il a vécu ses propres problèmes de santé mentale, reconnaît-il. Trevor Castile explique que sa priorité dans la vie est désormais de se lancer dans une carrière de conférencier inspirant et motivant, où il partagera ses expériences personnelles et professionnelles. Il précise qu'il va discuter ouvertement de son parcours à travers diverses expériences traumatisantes, y compris les batailles mentales quotidiennes, les pensées suicidaires, la dépression, le harcèlement, l'anxiété et les conséquences des médicaments. L'objectif, selon lui, est de favoriser un sentiment d'amour, de courage et de confiance parmi les participants, les aidant à renforcer leur propre résilience. Il y a un but à tout cela, qui est d'aider les gens, mais aussi de m'aider moi-même en même temps, a-t-il déclaré à Média Ténois. M. Castile a confié que son parcours de vie comprend des événements marquants. La faillite de son entreprise et sa faillite personnelle se sont produites au cours d'une période difficile, incluant un séjour dans un service psychiatrique d'un hôpital en Alberta. Le conférencier discutera des retombées de ses expériences et de ses efforts continus pour les surmonter. L'événement était structuré autour des thèmes de l'angoisse, du désespoir, de la lutte et de l'établissement d'objectifs. C'était « Briser le tabou de la santé mentale à Yellowknife », un texte de Cristiano Pereira, paru en juin 2024 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
Les chemins forestiers abandonnés menacent les milieux aquatiques. Un texte de Sylvain Jutras, paru dans le magazine L'Actualité de mai 2024. Le laxisme de Québec quant à l'entretien de la voirie forestière compromet la sécurité des automobilistes qui s'y aventurent et entraîne la détérioration des cours d'eau avoisinants, déplore le professeur Sylvain Jutras, spécialiste de l'aménagement et l'environnement forestier. Sylvain Jutras est professeur titulaire à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Ses domaines d'expertise sont liés aux effets de l'aménagement forestier sur l'eau, à la voirie forestière, à la mesure de la neige en milieu forestier, à l'hydrologie des tourbières, ainsi qu'à la cartographie hydrographique à partir de données LIDAR. Il y a maintenant plus de 25 ans, le ministère québécois des forêts, de la faune et des parcs a trouvé un moyen très efficace d'augmenter sa compétitivité forestière par rapport aux autres provinces canadiennes. En décidant de ne pas mettre en place un plan de gestion des chemins forestiers au milieu des années 1990, le gouvernement du Québec et les compagnies forestières exploitant les forêts publiques ont réalisé des économies notables au détriment de la protection des milieux aquatiques pour les générations futures. En effet, l'abandon de ces chemins après leur usage est une pratique qui ne semble être courante et légale qu'au Québec, ce qui cause aujourd'hui une menace directe à la qualité de l'eau en raison de l'érosion des chemins et du lessivage du remblai des ponceaux. Ces défaillances entraînent graduellement des tonnes de sédiments dans les milieux aquatiques. Des chemins éphémères. L'immense territoire des forêts boréales et les volumes de bois gigantesques qu'elles contiennent sont essentiellement situés sur des terres publiques. Les ressources qu'on y trouve, telles que le bois, la faune, la flore, les paysages et l'eau, sont donc collectives, puisqu'elles appartiennent à tous les citoyens et citoyennes de chaque province. Chaque gouvernement provincial en assure la gestion, par le truchement de lois et de règlements, mais aussi par la collecte de redevances imposées aux entreprises qui exploitent et transforment ces ressources en produits très utiles à nos sociétés, comme les matériaux de construction renouvelables, les papiers et cartons, ainsi que la bioénergie. Aller récolter ces ressources en milieux éloignés et les transporter jusqu'aux usines de transformation requiert la mise en place d'un immense réseau routier adapté à cette tâche, que l'on appelle des chemins forestiers. Construit rapidement à l'appel mécanique et au bouteur, avec la terre, le gravier et les pierres que l'on trouve sur place ou à proximité, ces chemins sont ponctués de ponceaux essentiellement pour franchir les innombrables cours d'eau qui traversent le territoire. Une très faible proportion de ces chemins sont larges, bien gravelés et entretenus fréquemment pour permettre des déplacements rapides et sécuritaires. Ceux-ci sont d'ailleurs utilisés comme ossature principale d'accès au territoire et à ses ressources. Toutefois, l'immense majorité des chemins forestiers publics sont intensivement empruntés pendant de très courtes périodes, allant de quelques mois à une dizaine d'années. Une saine gestion d'un réseau de chemins forestiers devrait donc prendre en compte cette particularité importante. C'est d'ailleurs par le truchement de plans de gestion que sont administrés les chemins forestiers partout au Canada, sauf au Québec, où ils sont inexistants. Ces plans encadrent le déploiement et la construction du réseau routier principal, ainsi que l'entretien, la mise hors service et la fermeture de chemins forestiers à court, moyen et long terme. Le ministère québécois responsable des forêts applique depuis plusieurs décennies un encadrement réglementaire fort et robuste en ce qui concerne la construction des chemins forestiers dans les forêts publiques de la province. Tracé presque uniquement dans le but premier de permettre l'extraction de matières ligneuses, c'est maintenant plus de 476 000 km de chemins qui ont été fortement subventionnés par l'État québécois au courant des dernières décennies. Assez pour faire presque 12 fois le tour de la Terre. Puisque ces chemins deviennent légalement publics dès leur construction, ils sont accessibles à tous les usagers et pour tous les usages possibles. En complète inadéquation avec la sévérité des règlements pendant la construction, il n'existe pratiquement aucune réglementation liée à l'entretien de ces chemins par la suite. Le régime forestier actuellement en place décharge entièrement les industriels forestiers de la nécessité d'entretenir ou de fermer ces chemins publics lorsque leurs activités forestières sont terminées. Ainsi, le gouvernement du Québec a longtemps espéré, sans jamais y consacrer un réel effort d'encadrement ou de coordination, que ses usagers secondaires allaient entretenir ce réseau de chemins construit avec nos deniers publics. Cependant, il a été démontré qu'à peine 25 % de ces chemins sont entretenus au cours des années qui suivent l'extraction de bois. Et près de 35 % de tous les chemins forestiers publics ont simplement été abandonnés, sans mise hors service, sans fermeture et sans entretien pendant des décennies. La science est pourtant sans équivoque. Les défaillances des structures routières mal entretenues sont à la source de menaces importantes pour les milieux aquatiques. Il en résulte des apports massifs de sédiments, des dommages aux habitats aquatiques, des entraves à la libre circulation des poissons et, bien évidemment, des contraintes à l'accès au territoire et à ses ressources. Ailleurs, au Canada, des sommes substantielles et récurrentes sont investies chaque année depuis des décennies pour entretenir, mettre hors service ou fermer des milliers de kilomètres de chemin. Pendant ce temps, le Québec n'y a consacré que des sommes dérisoires et a laissé se dégrader lentement ses structures. Québec ne respecte pas les règles du jeu. Cette situation déplorable a d'ailleurs été dénoncée très clairement en 2010 par le Bureau du forestier en chef dans son bilan d'aménagement forestier durable au Québec. Mais l'entrée en vigueur de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier en 2013 a fait en sorte que le forestier en chef du Québec a été dépouillé de son rôle de surveillance de l'aménagement forestier durable. Depuis, il n'a plus les outils ni l'indépendance nécessaires à l'évaluation des enjeux de conservation de l'eau causés par l'absence d'un plan de gestion des chemins forestiers au Québec. Ainsi, depuis plus d'une décennie, il est manifeste que le laxisme délibéré de la gestion de la voirie forestière publique par le gouvernement du Québec se fait au détriment de la protection des milieux aquatiques pour les générations futures. Cette façon de faire va directement à l'encontre des principes fondateurs du concept d'aménagement forestier durable, qui est pourtant clairement énoncé dans les lois en vigueur au Québec et au Canada. Le bois provenant des forêts publiques du Québec n'a malheureusement pas été récolté en respectant les règles du jeu que toutes les provinces canadiennes s'étaient pourtant engagées à respecter. Tant que le gouvernement du Québec n'acceptera pas la responsabilité des chemins forestiers abandonnés, qu'il ne permettra pas une évaluation indépendante du critère de conservation de l'eau et qu'il ne mettra pas en place une réelle politique de gestion de la voirie forestière, cette situation ne fera qu'empirer. L'eau est une ressource inestimable. Il est temps que les instances qui doivent en assurer la protection, comme les organismes de certification forestière et les ministères provinciaux et fédéraux de l'environnement, agissent dans le milieu forestier au Québec. C'était « Les chemins forestiers abandonnés menacent les milieux aquatiques ». Un texte de Sylvain Jutras paru dans le magazine L'Actualité de mai 2024.